L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe.
Alors on poursuit notre petite série sur les fouilles du centre-ville de Laval avec vous, Hugo Meunier, qui êtes responsable du site et archéologue pour la ville. Donc là, vous avez mis à jour les vestiges de l'église qui jouxtait l'hospice.
Donc là, on est dans un espace assez vaste qui correspond à l'ancien hôpital général de la ville de Laval, qui a été fondé à la fin du XVIIe siècle et qui était encore en activité jusqu'au milieu du XIXe siècle, qui a ensuite été transféré pour donner finalement ensuite l'hôpital actuel, tout simplement. Et comme tout établissement de ce type, il y avait une église, une chapelle, parce que c'était des établissements aussi religieux. Et donc on a pu dégager ici cette grande église quand même, qui donnait sur la place de la Chiffolière, finalement la première place avant celle du 11 novembre. On en a dégagé 26 mètres de longueur, elle faisait sans doute un peu plus, donc on peut une trentaine de mètres de longueur, quoi. Donc c'est quand même un édifice relativement important.
L'hospice se situait sous la poste.
L'hospice, c'était très grand, il y avait un très grand terrain qui se déployait sur le coteau là, et qui effectivement allait sous la poste et le long du cours de la Résistance. En sachant que jusqu'au début du 19e siècle, la Mayenne coulait là, ici, au pied de l'église et au niveau du cours de la Résistance. Donc le long de la poste, etc. Donc on avait vraiment un établissement qui était coincé entre la rivière de la Mayenne et la rue de Bel Air. Et donc à la pointe de cet îlot, de cet établissement, il y avait l'église Saint-Louis que vous avez face à vous. C'est quand même un établissement assez important qui accueillait sans doute on ne sait pas encore, il y a une étude documentaire qui est en cours, donc il va nous dire combien il y avait de gens accueillis. C'était essentiellement des indigents, des enfants abandonnés, des handicapés. Voilà. Donc on a retrouvé, pour ce qui concerne l'intérieur de l'église, son architecture, etc., on a retrouvé l'emplacement de l'hôtel au niveau du chevet. Alors c'est un chevet à pans coupés. On a retrouvé, je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a des empreintes de terre cuite, donc des carreaux de sol en terre cuite, donc c'est l'emplacement de l'hôtel. Et à proximité de cet hôtel, on avait aussi des sépultures, dont certaines d'ailleurs sont mentionnées dans les textes. Et dans le sondage que vous voyez, qui est un peu plus profond, là, ici, on a pu fouiller deux sépultures adultes, qui sans doute sont des sépultures des gouvernantes, ce qu'ils appelaient les gouvernantes des pauvres, donc la chef d'établissement.
C'est un établissement qui était tenu par des religieuses ?
Oui, semblerait, oui. Tout le secteur du chœur, on avait des sols en terre cuite, dont on a quelques éléments conservés, ou les empreintes des terres cuites, elles ont été récupérées, on recyclait tout, on gardait tout, donc au moment de la démolition de l'église, ils ont récupéré les sols en terre cuite. Et après, au niveau de la nef, là on a d'autres sépultures, on en a fouillé 4, il y en a plein d'autres, mais on en a fouillé que 4, puisque l'aménagement, normalement, ne va pas détruire ces sépultures, donc on les a laissées en place pour les futurs archéologues. Donc on a fouillé 4 et parmi ces 4, il y a au moins 2 personnes, dont un enfant handicapé, avec des malformations osseuses, probablement du rachitisme.
Au demeurant, on ne peut pas parler d'un cimetière non plus, c'était pas là où étaient enterrées toutes les personnes qui décédaient dans cet hospice.
Non, c'est pas du tout un cimetière, puisqu'ils étaient enterrés dans le cimetière de la Trinité, mais il y a quelques individus quand même qui ont eu la chance d'être inhumés dans l'église. Ça peut se comprendre pour les desservants, alors après pour les enfants, par exemple, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils appartenaient à une famille un peu plus riche? C'est difficile à dire. Peut-être que l'étude documentaire pourra nous le dire.
Ça pourrait être des personnes de la famille des donateurs, peut-être?
Oui, par exemple, oui, ça peut être le cas. On est sur des sépultures qui datent des 17e et 18e siècles, comme l'hôpital.
Mais alors justement, c'est étonnant, vous avez retrouvé les squelettes quasiment intacts.
Oui, alors c'est vrai que le sol est relativement acide. On pourrait s'attendre à ce que les os aient disparu. C'est pas le cas, puisque ici on a quand même, avec tous ces murs, etc., on a beaucoup de mortier, donc la chaux, ça rend les sols moins acides, donc les ossements étaient très bien conservés. Donc on pourra faire les études nécessaires pour connaître leur pathologie, savoir quel âge ils avaient, quel sexe, etc. Donc on aura beaucoup d'informations à partir des ossements. Donc voilà pour l'église. Alors il y a quelques autres aménagements aussi, on a des niches murales qui peuvent correspondre éventuellement à d'autres emplacements d'hôtels ou à des stalles. On ne sait pas trop encore pour l'instant. En sachant que l'église ensuite a été réutilisée en tant que poissonnerie après le transfert de l'hôpital, donc après les années 1840. On a aussi à l'angle, du côté de la rue de Bel Air, le logement du portier, Dans les années 1870, quand ils ont fait la poste actuelle, etc. Donc ça, c'était une poissonnerie, hein, ce bâtiment. Et donc à ce moment-là, ils ont détruit l'église. Alors après, la surprise aussi, une deuxième grande découverte, et cette fois-ci totalement inattendue, parce qu'autant l'église, on savait quand même qu'elle était dans les parages, hein, c'est la découverte d'un bâtiment, d'une maison en fait, qui est antérieure à l'église, qui est sous l'église même, on peut dire, et un bâtiment probablement résidentiel. Ça fait un bâtiment rectangulaire, une maison hein, qui n'est pas très grande, fait 60 mètres carrés environ au sol, mais il devait y avoir des étages, avec une cheminée, avec un évier... avec donc un peu d'équipement finalement domestique assez intéressant. Donc voilà, on est avant l'église et l'établissement hospitalier sur un espace résidentiel, une habitation tout simplement, qui daterait, alors on ne sait pas encore exactement, mais qui pourrait dater du 15e siècle ou du début du 16e siècle, dans ces eaux-là, vers 1500 environ.
Et pourquoi est-ce que ça vous étonne en fait? C'est par rapport à l'emplacement que ça vous étonne? Parce que du coup c'est vraiment en bordure de rivière ou...
Oui, alors c'est à la fois en bordure de la rivière, en bordure du ruisseau du Râteau.
À l'extérieur de l'extérieur l'enceinte.
De l'enceinte, tout à fait, à l'extérieur de l'enceinte. Mais bon, après c'est pas forcément étonnant, mais voilà, on n'avait pas la connaissance de bâtiments et déjà d'une extension finalement de l'espace urbain à l'extérieur de l'enceinte et de... C'était un axe de sortie de ville et il y avait déjà certainement quelques habitations. Donc on va étudier ça, on va essayer de préciser la datation notamment, parce que là pour l'instant on est sûr que c'est antérieur au XVIIe siècle, ça c'est sûr. On a quelques céramiques qui nous permettent de dater ça plutôt du XVIe siècle, en tout cas les dernières fréquentations, mais on peut avoir quelques surprises aussi sur la datation, ça peut être du XVe siècle sans problème. On a même le niveau extérieur avec donc face à la porte. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des pavés. C'est une sorte avec un fil d'eau hein, pour protéger la base du mur et pour recueillir les eaux de la toiture. Donc voilà, on est quand même sur un habitat assez privilégié quand même.
Ouais, assez sophistiqué et astucieux. Voilà.
Donc après, un peu plus loin, donc dans ce secteur, mais du côté de l'hôtel de ville, on retourne sur plutôt un terrain humide, marécageux. Donc lié à la vallée du ruisseau du Râteau et la confluence avec la Mayenne. Donc on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, mais voilà, on est plus sur des fossés, de drainage. Donc c'est toujours intéressant pour nous parce qu'on a des éléments organiques qui sont conservés, comme face à l'hôtel de ville, des graines, du bois, etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais on est dans une ambiance totalement différente. Hein.
Alors pour revenir quand même à ces tombes et à ces corps qui ont été découverts, Hugo Munier.
C'est envoyé en labo, c'est nettoyé, c'est envoyé en labo. Il y a un anthropologue qui va les étudier très précisément en mesurant les os, en les regardant pour voir notamment au niveau du bassin si ça peut être une femme ou un homme. On va pouvoir faire des datations aussi au carbone 14 par exemple, si on n'a pas d'autres éléments.
Oui, donc les corps ont été enlevés. Je croyais que vous disiez que ça avait été refermé et laissé en place.
Alors, les quatre qu'on a fouillés, les corps ont été enlevés. Par contre, tout le reste, parce que je ne sais pas, il y a des dizaines d'inhumations. Hein. Peut-être 50 personnes sont inhumées dans cette église. Elles sont restées en place. Alors, il y a déjà des corps qui avaient été enlevés, puisqu'on a trouvé plusieurs fosses d'inhumation où ça s'écroulait, en fait. Et les cercueils étaient vides. Donc il y avait déjà des corps qui ont été retirés. Hein. Peut-être au moment de la poissonnerie, enfin on ne sait pas trop. Hein.
Ça doit être assez émouvant quand même quand on est archéologue et qu'on ouvre une tombe.
Oui, c'est pas anodin. Après, ça reste aussi de la connaissance vraiment sur la vie quotidienne des gens, sur leurs maladies, comment ils vivaient, etc. Bon, ça, on peut tirer énormément d'informations à partir de ces sépultures et des ossements.
Et après, une fois qu'ils auront été étudiés, ces corps et ces ossements, qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait? Est-ce qu'ils seront remis dans un autre cimetière ou dans la fosse commune
Alors ça, c'est une question qui n'est pas tranchée pour l'instant, parce qu'il y aura le temps de l'étude, hein, qui va durer au moins 2 ans, le temps du rendu du rapport, ouais. Et donc après, c'est la direction régionale des affaires culturelles qui décidera du sort des sépultures. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas vous dire.
En tout cas, ils en ont pour 2 ans à se promener de labo en labo.
Voilà, mais ils auront toute notre attention et notre respect aussi.
Ils sont chouchoutés.
Oui, alors là, comme jamais.
Et la suite des fouilles, alors quel est le calendrier ?
Le prochain secteur qui est côté rue de Verdun, on aura probablement cette fois-ci le quartier intramuros du Val-de-Mayenne. Donc là, plutôt des habitations, des rues, des ruelles, ce genre de choses. Donc vraiment de l'habitat.
Rue de Verdun, c'est devant la CCI ?
Oui, c'est ça, oui. Et puis après, dans le secteur 5... Le secteur
5, c'est là où il y avait le monument.
Oui, voilà. Là, bientôt, on va arriver sur les niveaux qu'on dit humides, donc au niveau de la nappe phréatique. Donc là aussi, on aura probablement de l'activité artisanale, des tanneries, des blanchisseries à fouiller, donc avec pas mal de nouveautés. Et là, c'est un peu l'inconnu aussi, on attend ça avec impatience.
Parce qu'en fait, la Mayenne, donc, elle passait ici au pied de l'actuelle poste, donc rue Cours de la Résistance. Du côté du monument aux morts, c'était de nouveau la terre ferme.
Oui, c'était la berge, oui. Et c'est pour ça que c'est très humide et qu'on a les tanneurs. Enfin, il y a toutes les activités un peu aussi qui ont besoin de l'eau, toutes les activités artisanales qui ont besoin beaucoup d'eau s'installent évidemment en bord de Mayenne, hein, c'est logique.
Bien, merci beaucoup Hugo Meunier de nous avoir guidés dans cette étape des fouilles du centre-ville de Laval, donc cette étape qui se situe donc en bas de la rue de Bel Air, dans le prolongement de l'ancienne poste. Alors si nos auditeurs veulent venir voir, des visites sont organisées, mais il faut se hâter avant que tout ne soit remblayé pour le réaménagement de la place.